de la crise au Mozambique, et ce alors que le Conseil constitutionnel doit annoncer aujourd'hui sa décision sur la validité des dernières élections législatives et présidentielles. Dans une dizaine de minutes également, nous intéresserons à l'industrie nigériane du jeu vidéo, mais avant ça, les sports. Le journal des sports avec vous, Victor Misistrano, bonjour.
Bonjour Simon, bonjour à tous.
Et à la une, le prochain championnat d'Afrique des Nations de football, tournoi prévu en février prochain au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Pour l'heure, les éliminatoires se terminent.
Oui, les sélections de joueurs locaux disputent une dernière double confrontation. Fin des matchs allés hier, le Cameroun a dominé la Centrafrique 1-0, un but du défenseur Aloïs Fouda en seconde période dans ce match délocalisé à Abidjan. Mauvaise opération. Pour les fauves, il leur faudra obtenir un résultat en terre camerounaise. Et s'ils gardent espoir, le sélectionneur Sébastien Ngato a des regrets.
Dès que nous avons entamé le match, les adversaires nous ont pressé un peu. On les a laissés jouer un peu. Et après, dès que nous avons repris les choses en main, mais c'est la maladresse. Ça, je regrette. Il y a la maladresse devant les buts. Il manquait un peu de lucidité de mes poulains parce que nous avons eu pas mal de causes et qu'on a mal négocié et que nous avons pris un but. Sachant que ce match-là devait se jouer chez nous et que nous sommes chez nous, il faut aller faire le double dans 4 jours au Cameroun. Ils sont venus chez nous, ils ont gagné. Et d'une façon ou d'une autre, on peut prendre aussi les 3 points comme ils sont venus le faire chez nous.
Rendez-vous samedi à Bafoussam pour ce match retour entre le Cameroun et la Centrafrique.
Et pour sa part, la Côte d'Ivoire a fait le travail à domicile contre le Burkina Faso.
Un succès 2-0 au Félicia d'Abidjan avec un doublé du prodige de 17 ans, Oumar Konaté, l'attaquant du Soldat Bobo qui permet aux éléphants donc de se rapprocher de la qualification. Mais rien n'est joué selon le sélectionneur du Burkina, Issa Balboné, qui regrette d'avoir été peut-être un peu trop frileux dans ce match aller.
L'adversaire qui a profité des occasions offertes par nous-mêmes. Peut-être que les enfants étaient trop concentrés, peut-être trop excessifs. Parce qu'on les avait demandé de ne pas prendre de but, marquer si possible. Nous avons débuté d'abord à 4 derrière. C'est parce que nous avons encaissé et qu'il fallait changer le dispositif. Voilà, c'est ce qu'on a fait. La tactique n'a pas marché ce soir. Au match retour, peut-être que vous allez voir un autre visage. Mais 2-0, c'est pas un score. Même 3-0, il était dit que c'est pas encore fini.
Issa Balboné, combatif au micro de Molamine Sissavané, le Burkina Faso qui tentera de rattraper cet écart donc de 2 buts samedi à Bamako face à la sélection ivoirienne.
Et hier, la surprise du jour est venue du tenant en titre.
Vainqueur du Chan en 2023, le Sénégal n'est pas parvenu à battre le Liberia. 1-0, même résultat entre le Togo et le Niger, frustrant pour les éperviers qui devront faire mieux au match retour qui sera délocalisé au Mali. Ils ont ouvert le score en première période et pointent une erreur d'arbitrage sur l'égalisation nigérienne. Mais le sélectionneur Kader Koubadja n'est pas mécontent de la prestation globale de ses joueurs.
Ils ont raté beaucoup d'occasions, mais ils ont eu des pénalties aussi qui n'ont pas été sifflées. Mais bon, voilà, c'est l'arbitre, il est le seul maître du terrain. Qu'est-ce que tu veux? Il faut qu'on respecte cette décision. Peut-être que nous, on était loin en voyant ça. Bon, il y a beaucoup de paramètres qui sont en jeu. On va continuer à travailler. Et je sais que, bon, voilà, moi, je vais à Bamako pour être qualifié.
Propos recueillis par Tété Hadji, Niger-Togo match retour vendredi. De son côté, la Mauritanie a remporté le derby face au Mali 1-0. Tout reste à faire entre le Ghana et le Nigeria 0-0. Enfin, Simon, défaite du Rwanda face au Soudan du Sud, 3-2.
Le journal des sports signé Victor Misistrano, merci à vous.
Simon Bourtembourg.
Un point à présent sur les principaux titres de l'actualité internationale avant votre prochain journal dans moins d'un quart d'heure. Et à la une journée de deuil national ce lundi en France, plus d'une semaine après les ravages du cyclone Chido. Les populations sont invitées à marquer une minute de silence à 10h TU. Les drapeaux sont en berne dans le pays. Le bilan humain de ce cyclone reste toujours inconnu. Au moins 35 morts ont pour l'instant été recensés. Estelle Youssoufa, députée de Mayotte, sera tout à l'heure l'invitée de RFI entre retient à 6h20, temps universel. La France, par ailleurs, toujours sans gouvernement. L'entourage du Premier ministre fait savoir que les derniers réglages sont en cours. François Bayrou avait promis la nomination de son équipe avant Noël. En Syrie, toutes les armes en circulation, bientôt sous le contrôle de l'État. Le nouveau dirigeant promet également que toutes les factions armées seront progressivement dissoutes pour intégrer l'armée nationale. Le pape, lui, persiste et signe. Pour la deuxième fois en 2 jours, François a condamné la cruauté des frappes sur Gaza, et ce, malgré les remontrances de la diplomatie israélienne. Nous l'évoquions dans le journal, en République démocratique du Congo, près de 7 millions de personnes sont toujours déplacées internes suite aux différents conflits. La situation dans l'est du pays est particulièrement critique, notamment dans le Nord Kivu, une zone où sévit depuis plus de 2 ans maintenant le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda voisin. Les autorités et les acteurs humanitaires ne cessent de répéter que les conditions de vie dans ces camps de déplacés sont inhumaines. C'est aussi la position d'Emmanuel Lampart. Il est directeur pays de Médecins Sans Frontières en RDC. Il revient tout juste d'une mission dans l'est du pays et il s'est confié au micro RFI de Paulina Zidi.
Emmanuel Lampart, bonjour.
Bonjour.
Vous rentrez d'une mission dans l'est du pays. Quelle est la situation humanitaire que vous avez constatée ?
J'étais à l'est jusqu'à la semaine passée, notamment dans le territoire de Calais et ensuite à Goma, dans les camps. Le constat, il est assez déplorant. C'est-à-dire la situation perdure, s'enlise. Ce que j'ai pu voir dans les camps autour de l'hôpital général de référence de Minova, certes avec une distribution alimentaire en cours, mais même pendant cette distribution alimentaire, les gens se piétinent, se poussent. Donc ça montre qu'ils sont vraiment dans la souffrance, qu'ils ont besoin de cette aide essentielle. Et il y a eu même des morts à déplorer. Dans l'hôpital, j'ai vu le service de chirurgie débordé. Pas des traumas, des accidentés, de la voie publique. On parle là des gens qui reviennent du front. On est maintenant 2 voire 3 ans dans les conséquences de cet enlisement, de ce conflit. Et ça, c'est un constat qui fait mal.
Quels sont aujourd'hui les besoins les plus urgents, sachant que la réponse humanitaire a été un peu plus financée cette année que les années précédentes, donc l'argent est là, et pourtant les conditions restent dramatiques dans les camps de déplacés.
Certes, on a tous pu le lire que jamais auparavant le plan de réponse humanitaire a reçu autant d'argent. Faut-il encore pointer que 3/4 vient d'un donateur spécifique et que pas mal se fait par des transferts de cash. Le constat est là et les besoins prioritaires sont toujours là. C'est-à-dire l'essentiel en termes de eau et assainissement n'est pas assuré. Et puis, bien évidemment, on doit toujours marteler la prise en charge de qualité avec confidentialité, notamment des violences sexuelles.
Vous parlez des violences sexuelles. MSF a tiré plusieurs fois la sonnette d'alarme sur le niveau alarmant des violences sexuelles dans ces zones de conflit. Ça continue.
Oui, les tendances que nous avons pu mettre en avant, les malheureuses tendances, continuent. Il est clair que la prévention ne fonctionne pas. Nous avons constaté les dernières semaines qu'au-delà des déclarations d'intention, un réel plan d'action et un réel effort commun n'est pas d'actualité et n'est pas mis dans les agendas comme une claire priorité.
D'autant plus que les combats se poursuivent, notamment dans le Lubero, le nord de la province du Nord Kivu, une zone où les humanitaires ne sont pas encore massivement présents. Est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui pour les civils dans ces camps de déplacés ?
C'est clair. Médecins Sans Frontières songe aussi à envoyer une équipe pour faire une évaluation des besoins, mais il est clair que là aussi, l'impact humanitaire, elle est clairement présent, elle est à évaluer davantage et à répondre surtout.
On va passer à une autre situation qui inquiète le pays, l'épidémie de Mpox. Ça fait plusieurs mois que l'urgence a été déclarée par l'Organisation mondiale de la santé. Quelle est aujourd'hui la situation du Mpox en RDC ?
J'ai pu le constater de nouveau à Minova. On voyait les conséquences du conflit. On voyait une épidémie aujourd'hui oubliée qui est le choléra, qui commence à remonter, et également le centre d'isolement pour la variole du singe, le Mpox. Il y a eu beaucoup d'efforts. Il y a eu le lancement de la première phase de la vaccination, mais je crois que ce qu'on a pu constater, et l'appel est là, c'est qu'avant tout, les bases de la lutte contre une épidémie soient assurées. Tout ce qui est prévention, contrôle, infection, les gestes de base afin de limiter la transmission, ne pas mettre tout sur l'outil supplémentaire qui aujourd'hui existe, mais à une certaine mesure. Il y aura une revue intra-action dans les semaines à venir de la réponse qui est en cours, mais encore une fois, je crois que les bases sont à renforcer dans les différentes zones, non seulement à l'est, mais aussi à l'ouest du pays, toute la partie endémique, Mpox, depuis les années 70, il y a certainement beaucoup de travail. Le gros défi étant la capacité de testing. Ça reste autant dans le sud Kivu, Bukavu, autant dans la partie ouest du pays, là où le bas blesse.
Emmanuel Lampart, merci.
Merci à vous.
Un entretien mené par Pauline Azidi, à réécouter quand vous le voulez sur l'application RFI Pure Radio. Au Mozambique, en crise, le Conseil constitutionnel doit annoncer aujourd'hui sa décision sur la validité des dernières élections législatives et présidentielles. Une décision scrutée par le secteur économique aux abois depuis le scrutin contesté du 9 octobre. Gaël Lalex.
Principal pays touché par l'instabilité mozambicaine, l'Afrique du Sud voisine et notamment ses producteurs de chrome. Extrait dans le nord-est du pays, c'est par le port de Maputo que ce minerai est exporté. Or, depuis le début de la crise, le poste frontière de l'Ebombo entre les deux pays est régulièrement fermé aux fret. Cette situation a notamment fait l'objet d'une rencontre ministérielle entre les deux pays la semaine passée à Malelane, en Afrique du Sud. Dans un communiqué conjoint, Maputo et Pretoria se sont engagés à sécuriser les infrastructures afin de garantir un minimum de perturbation du commerce régional et transfrontalier. Selon Gavin Kelly, président de l'association sud-africaine du fret routier, la fermeture de la frontière mozambicaine coûte chaque jour 550 000 dollars à l'économie d'Afrique du Sud. En août, les exportations sud-africaines de chrome dépassaient le 1,5 million de tonnes selon le marché des métaux de Shanghai. Leur niveau annuel avait jusque-là atteint des records, mais la crise mozambicaine risque d'enrayer cette hausse. Autre secteur en difficulté, le sucre de l'Iswatini. Voisin du Mozambique, dépourvu d'accès à la mer, ce petit pays d'Afrique australe utilise le port de Maputo pour ses exportations. Les blocages routiers de l'autre côté de la frontière ont déjà causé de nombreuses perturbations selon l'ESA, l'association du sucre de l'Iswatini. Les producteurs songent à se replier sur le port de Durban, au nord de l'Afrique du Sud, mais cela coûtera plus cher, explique Nontobeko Mabuza, responsable de plaidoyer à l'ESA. Et cela mettra à rude épreuve nos infrastructures de transport, conclut-elle. Le sucre représente le deuxième produit d'exportation de l'Iswatini. L'année dernière, 26 000 tonnes ont été envoyées à l'étranger, notamment aux États-Unis, pour 305 millions de dollars.
La chronique des matières premières, signée ce lundi Gaël Lalex. RFI, 6h55 à Abuja et nous nous intéressons ce matin à l'industrie nigériane du jeu vidéo, un secteur en plein développement qui cherche à changer les imaginaires en s'appuyant sur des super-héros africains. Un pari longtemps considéré comme fou dans un monde dominé par les univers de Marvel américain et des personnages de manga japonais. Mais aujourd'hui, le succès est là et à tel point que des plateformes américaines et européennes signent des contrats avec cette avant-garde de Lagos. Le reportage de Moïse Gomis.
Michael, who's have you guys chosen the game for the dev team?
No, we haven't.
Okay, do you know who's...
Au milieu d'un vaste open space, Hugo s'adresse en visioconférence à son équipe. Son staff est réparti entre Afrique du Sud, Cameroun, Ghana, Kenya et Nigeria. Malio Games existe depuis 2012. Et c'est depuis Yaba, le quartier où se concentre le plus grand nombre d'entreprises du numérique au kilomètre carré en Afrique, que Hugo motive son équipe. Et pour lui, hors de question de se laisser griser par la nouvelle notoriété acquise grâce à la licence Disney.
Je pense que nous sommes une équipe qui se concentre beaucoup plus sur l'exécution technique que sur la création et l'art. Nous n'imaginons pas un super-héros pour concevoir un jeu, nous imaginons d'abord un jeu et concevons ensuite des personnages pour ce jeu. Et si ces personnages sont des super-héros, c'est génial. Si ce sont juste des gens normaux, entre guillemets, c'est tout aussi génial. Mais je pense que nous penchons plus, historiquement, vers des personnages attachants, pas forcément des super-héros, mais davantage des personnages et des histoires individuelles auxquelles les gens peuvent s'identifier. Qu'il s'agisse d'histoires du passé, d'histoires du futur, mais pas abstraites. Je pense que Malio, nous sommes de moins en moins une entreprise abstraite et de plus en plus une entreprise réaliste au sens propre et figuré à travers les jeux que nous créons.
C'est l'influence de Legos ?
Je n'y ai jamais pensé. C'est possible. Je suis un grand fan de l'Afrobeat et du succès de l'industrie musicale nigériane. Je pense que la plupart des chansons qui marchent bien bien sont des chansons qui se rapportent à l'expérience actuelle des gens. Je pense donc que les gens se connectent mieux à ce qu'ils ont sous les yeux et à la manière dont ils naviguent dans ce qu'ils ont sous les yeux. Et ce que nous faisons avec le jeu, c'est de construire le jeu autour de la façon dont vous pouvez naviguer dans ce qui est devant vous. Il s'agit évidemment d'une expérience immersive de la technologie que nous proposons. Nous n'avons pas encore construit un jeu réussi en termes de monétisation pure, mais seul l'avenir nous dira si cette approche est la meilleure. Mais j'avoue que je ne suis certainement pas un adepte des super-héros, mais ici à Malio, on n'a pas encore créé un jeu autour d'un super-héros. Je pense qu'il y a d'autres studios au Nigeria qui le font bien.
Extrait du grand reportage de Moïse Gomis que nous vous proposons d'écouter aujourd'hui à midi 10 et 21h40, heure de Paris. RFI, 6h58 ici à Paris. C'est la fin de cette demi-heure consacrée à l'actualité africaine. Dans deux minutes maintenant, RFI Matin, avec vous, Julien Coquel-Rohem. Bonjour Julien.
Bonjour Simon, bonjour à tous. RFI Matin jusqu'à 8h, temps universel et Mayotte à la une. 10 jours après le cyclone Chido qui a ravagé l'archipel, un jour de deuil national a été décrété aujourd'hui en France, alors que le département reste plongé dans la crise et l'incertitude. On en parle dans un instant avec notre envoyé spécial sur place, Nicolas Feldman, et dans un peu plus de 20 minutes avec notre invité, la députée Liotte de Mayotte, Estelle Youssoufa. Bientôt 6h, en temps universel, le journal dans une minute.
Appelez-nous, exprimez-vous. Nathalie Amar.
Une semaine après le passage du cyclone Chido, le chantier de la reconstruction de Mayotte s'annonce colossal. Lors de son déplacement dans l'archipel, Emmanuel Macron a fait face à la colère des sinistrés. Que vous inspire la réponse de l'État français? Les mesures annoncées sont-elles à la hauteur de la catastrophe?
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité tout à l'heure avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
RFI.
Tout à l'heure sur RFI, vous m'en direz des nouvelles.
Dans son second roman, Les âmes féroces, à travers une enquête sur le meurtre d'une adolescente, Marie Vintras nous offre une peinture sociale aux allures de soap-opéra, une plongée dans la vie quotidienne, les tourments et les non-dits d'une petite communauté, celle d'une ville tranquille des États-Unis.
Vous m'en direz des nouvelles ? Rendez-vous avec Jean-François Cadet, du lundi au vendredi à 15h10 TU.
RFI.